Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors encore aujourd'hui, une émission de la Voix des Arts consacrée aux créatrices, artistes, femmes espagnoles. Bon, je ne vais pas ici vous citer toutes celles qui sont passées lors des dernières émissions. Il y en a déjà beaucoup, puisque nous arrivons à la 6e émission consacrée aux créatrices espagnoles. Et j'ai dénombré déjà une trentaine d'écrivaines et compositrices qui ont vécu au 19e, début du 20e siècle. Mais je n'arrive pas au bout de ma liste, puisque d'autres se présentent. Alors restons encore un moment avec les musiciennes, dont une se nomme Carmen Santiago de Meras. Elle est née à Oviedo en 1917 et décédera à Madrid en 2005. Donc vous voyez qu'elle a vécu jusqu'au 21e siècle. Alors j'ai pas trouvé beaucoup d'informations, sauf qu'elle fut élève diplômée du Conservatoire de Madrid, participa à des concours internationaux, était pianiste et a composé des œuvres pour piano, chant et groupes instrumentaux qui ont été interprétées surtout en Espagne et au Portugal. Alors une autre de ces femmes se nomme Maria Teresa Oller Benlor. Elle est née à Valence en 1920 et est décédée récemment en 2018 à l'âge bien avancé de 98 ans. Alors, c'est une longue vie qui parcourt un siècle de grandes transformations et voyons comment elle s'exprime et se positionne par rapport aux époques qu'elle a traversées. Bon, déjà, elle est née dans un milieu éduqué, sa mère jouait du piano. Il semblerait que le foyer ouvert aux musiciens lui permît de se familiariser avec le monde musical, notamment grâce à un compositeur musicologue pionnier du modernisme, ami de la famille, nommé Eduardo López Chavarri. Quoi qu'il en soit, ses goûts restent plutôt classiques, mais elle manifeste aussi et surtout de l'intérêt pour les musiques populaires. Alors au Conservatoire de musique de Valence, elle étudiera le piano, la composition, le chant, la direction d'orchestre. Elle y recevra un enseignement à la fois théorique et pratique et par la suite obtiendra une bourse de l'administration valencienne pour se perfectionner dans la composition. Et elle-même enseignera par la suite l'harmonie au Conservatoire de musique de Valence. Entre-temps, elle fondera un groupe vocal et en parallèle de ses activités, entreprendra en tant que musicologue un grand travail de compilation de toutes les musiques populaires traditionnelles de la province de Valence pour lesquelles elle avait manifesté déjà toute jeune un grand intérêt. Si bien que dans le but de recueillir et préserver toutes ces musiques, elle parcourra villages et provinces. Alors par la suite, elle s'associera avec d'autres musicologues, musiciens, comme par exemple Salvador Seguí ou Firmin Pardo, puis ce sera sous l'égide d'organismes et d'institutions plus complexes et importantes, toujours avec l'objectif de recueillir et de préserver le patrimoine folklorique. Bon, apparemment, il semble que son apport fut remarquable autant qu'important. Elle communiquera aussi largement le fruit de son travail dans différentes revues musicales, ce qui ne l'empêchera pas de composer. Bon, en tout cas, je pense ce qu'il faut retenir de cette artiste, outre le fait qu'elle composait, eh bien, c'est qu'elle a fortement contribué à préserver le patrimoine musical folklorique de sa province valencienne. En tout cas, nous allons écouter ce que j'ai trouvé de ses compositions qui correspond à une chansonnette interprétée par une chorale valencienne. Alors, j'espère que je traduis bien car l'intitulé en espagnol est Canzoneta del Mongo. Place à Maria Teresa Oller Benlor pour la musique.
Oh,
peine avons-nous terminé avec Maria Teresa Oller Benlor qu'une autre Maria Teresa, cette fois nommée Borras, se présente à nous. Alors Maria Teresa Borras est née en 1923 à Manresa et est décédée également début du XXIe siècle, en 2010 plus exactement. Alors elle embrassa aussi une carrière complète de musicienne accomplie en étudiant à la fois théorie et pratique, notamment le piano et la guitare, ainsi que la composition. Et elle débuta au Conservatoire supérieur de musique de Barcelone pour poursuivre des enseignements complémentaires, notamment à l'Académie Chigiana de Sienne en Italie, ou au Conservatoire supérieur municipal de Barcelone, entre autres. Alors elle participa à de nombreux concerts où elle put également jouer de ses compositions et elle se produira en public jusqu'à l'âge avancé de 90 ans. Alors elle enseigna aussi notamment le piano, l'harmonie dans des écoles de musique comme à Manresa ou à Mataró, qui sont des villes de la province de Barcelone en Catalogne. Il est dit que sa production est importante et variée pour le piano comme pour la guitare et aussi la harpe en tant qu'instrument soliste. Son style est influencé aussi par tous ces nouveaux courants artistiques qui amènent des sonorités nouvelles. En tout cas, elle fait preuve d'inventivité. Quant à sa personnalité, il semblerait qu'elle manifestait une grande humanité autant qu'un grand professionnalisme dans l'exercice de son art. Alors en cherchant, comme une petite folle, des informations intéressantes sur ces femmes compositrices espagnoles, je suis tombée sur un site consacré aux femmes compositrices pour la guitare, un site espagnol intitulé « Mujer y Guitarra Española », « Femmes et guitare espagnole », et j'ai dénombré avec celles qui sont nées courant XXe siècle 69 artistes, dont certaines vous ont déjà été présentées dans La Voix des Arts au cours de ces dernières émissions. Bon, vous pensez bien que je n'ai pas regardé le parcours de ces 69 compositrices, ce n'est pas possible, ni mon objectif de toutes les citer. Et de plus, j'avais décidé, et je vous l'avais dit, d'arrêter ce sujet sur les femmes créatrices au cours du temps, toutes disciplines confondues, avant d'arriver à la moitié du XXe siècle. Mais cependant, je tiens encore à contredire les affirmations que j'ai trop souvent entendues sur le manque de créativité, de talent ou de carrière intéressante des femmes en général et des artistes créatrices en particulier. Alors ici, ce sont les Espagnols qui prouvent le contraire. Je n'ai rien inventé. Simplement, avec un peu d'intérêt et de curiosité, on trouve de quoi contredire les idées reçues. Et encore, je ne mentionne pas celles qui ont composé pour d'autres instruments que la guitare. Alors, si je reste avec celles qui sont nées début du XXe siècle, je peux encore citer Montserrat Micó Falvi, qui elle est née en 1929 à Palma de Majorque et qui étudia le piano au Conservatoire professionnel de musique et danse des Baléares et ensuite au Conservatoire royal supérieur de musique de Madrid, où elle obtint la récompense de son cursus. Or, grâce à une bourse d'études, elle vint étudier à l'École normale supérieure de Paris à 21 ans pour obtenir une licence de composition symphonique et elle intégrera par la suite, en 1981, la Société des auteurs-compositeurs de Paris. Alors, elle a composé de nombreuses œuvres qui ont notamment été produites à Paris, comme dans l'imposante église de la Madeleine dans le 8e arrondissement. Sa messe avec chœur et orchestre a été produite dans la ville du Mans, où elle était connue déjà pour un concert pour piano et orchestre intitulé « Félanitz ». Sinon, d'autres compositions sont à son actif, présentées en France, où elle a vécu une grande partie de sa vie, ou à Palma de Majorque également, où elle est née. Alors, je citerai comme œuvre un prélude et fugue intitulé « Son amer » et aussi trois compositions intitulées « Melodias Mallorquinas » inspirées de poètes mallorquins comme John Alcover, qui est également un homme politique, Guillaume Colomb, ou d'un prêtre nommé Miquel Costa y Llobera, pour les citer. Alors même si elle a passé la majeure partie de sa vie à Paris, elle est revenue dans son pays, dans l'île de Majorque, à Puerto Portals, pour y décéder en 2012. Mais je peux encore citer Maria del Carmen Conde Delgado, née à Barcelone en 1933, qui fut initiée par sa mère, la pianiste et poète Luisa de Galdo de Rivadulla. Elle poursuivit ensuite des études au Conservatoire supérieur de musique de Barcelone et enrichira ses connaissances en harmonie et composition pour ensuite se dédier pleinement à la composition. Et elle a composé des œuvres pour flûte traversière surtout, avec des accompagnements au violon et à la guitare et également au piano. Mais tant d'autres encore composent des musiques qui peut-être parviennent à nos oreilles sans que nous connaissions leur provenance, tant nous sommes habitués à entendre parler de compositeurs et non pas de compositrices. Alors encore une fois, j'aurais aimé vous faire écouter sa musique, mais ce n'est pas possible, je n'ai pas trouvé. À défaut de notes, vous devrez vous contenter de mes mots. En tout cas, j'espère que mon discours suffisamment éclairant vous donnera envie peut-être de chercher à votre tour. Et si nous laissions nos compositrices un peu de côté, même si je n'ai pas épuisé le sujet, car il semblerait qu'elles sont légion courant XXe siècle. Alors laissons-les pour ouvrir maintenant la porte aux plasticiennes espagnoles, peintres ou sculptrices. Alors si vous vous souvenez, je vous avais déjà présenté la peintre surréaliste Remedios Varo, qui elle est née au début du XXe siècle en 1908 et qui, pour raisons politiques, dut fuir, comme tant d'autres, l'Espagne pour se réfugier au Mexique, où elle se mêlera à une communauté artistique internationale, car les artistes de ces époques étaient de grands voyageurs. Alors les voyages, s'ils forment la jeunesse, forment apparemment aussi les artistes. Je peux vous dire que oui, d'une certaine manière. Souvenez-vous de Paris et de la pluralité des nationalités au sein de la communauté artistique, dans des registres variés comme la peinture, sculpture, littérature, musique, entre autres. Le Paris du début du XXe siècle était réputé dans le monde comme une place forte pour la qualité de son enseignement artistique, son foisonnement culturel et sa créativité. Et l'essentiel de ces acteurs venus de France et d'ailleurs se concentrait dans les quartiers bien connus de Montmartre et de Montparnasse. Alors c'est dire qu'il existait réellement une émulation, voire une solidarité entre artistes qui, selon les événements, la réalité sociale et ce qu'ils avaient à exprimer, se retrouvaient dans leur famille d'âme, si je puis dire. Alors nous retrouvons l'Espagne et nos Espagnols. L'une d'elles est nommée Maria Blanchard. Elle est née fin 19e siècle en 1881 et était une peintre espagnole de l'école de Paris, c'est-à-dire, et ce que je vous disais précédemment, exportée à Paris pour se mêler à la dynamique artistique locale. Or, c'était une peintre figurative, plutôt orientée sur le cubisme. Souvenez-vous que les peintres Braque et Picasso ont en quelque sorte lancé ce courant, qui correspond à traiter des sujets avec des formes géométriques. Le tableau de Picasso intitulé « Les Demoiselles d'Avignon » en est une bonne représentation, d'autant plus que c'est l'œuvre qui a en quelque sorte lancé et diffusé plus largement ce courant. Mais revenons à Maria Blanchard, notre espagnole, qui elle était issue d'une mixité de nationalités, puisque c'est son père qui était espagnol, alors que sa mère était franco-polonaise. Aussi, le nom complet de Maria Blanchard était Maria Gutiérrez Cueto y Blanchard, et elle a emprunté surtout le nom de sa mère dans sa vie artistique. Alors ses études, elle les débutera à Madrid pour les poursuivre à Paris grâce à une bourse, car elle manifestait de belles dispositions artistiques. Or, que ce soit en Espagne ou en France, elle étudiera avec des références en tant que professeur à l'époque. Elle côtoie bien évidemment les artistes, partagera même à son retour à Madrid un atelier avec le peintre Diego Rivera, qui, comme vous le savez, était l'époux de la peintre Frida Kahlo. Or, celui-ci aussi, durant sa jeunesse, voyageait comme tant d'autres artistes pour se perfectionner ou développer sa créativité, s'inspirer, etc. si bien qu'on le rencontre en Espagne, on le croise à Paris, avant de le revoir dans son pays, le Mexique. Quant à Maria Blanchard, après quelques années d'enseignement à Salamanque, c'est-à-dire à l'âge de 35 ans, elle viendra vivre définitivement à Paris, où elle se liera à d'autres artistes comme les peintres Juan Gris ou André Lhote. Alors, il semblerait que cet artiste peintre fût bien apprécié dans les milieux artistiques qu'elle côtoyait et entretenait de bonnes amitiés avec certains artistes, mais qu'elle subit aussi les inconvénients d'être née femme à son époque et de surcroît une femme de talent, si bien que j'ai lu, alors est-ce vrai, hein, je mets les bémols, afin que ses toiles aient plus de valeur que celui d'un artiste masculin, bon je crois que c'était celui de Juan Gris, son nom aurait été effacé pour être remplacé donc par celui de l'artiste masculin. Alors j'ai regardé ses toiles, qui n'ont rien à envier à celles de ses autres camarades artistes masculins. On sent plus ou moins, selon les toiles, les influences cubistes. Bon, c'est très bien équilibré entre les formes et les couleurs. Ce qui se dégage de cette peinture sensible vous touche en émotion et semble bien en accord avec ce qu'elle a voulu transmettre. Et sa manière de traiter les sujets est également personnelle. Alors je pense, hein, en tant qu'amateur de peinture, bon, je le dis en souvenir de ma jeunesse, lorsque je partais en quête des artistes du passé pour m'éduquer et me forger mes propres avis, que c'est dommage qu'elle n'ait pas eu plus d'écho dans la sphère sociale, comme tant d'autres collègues masculins, et nous donner un exemple du talent au féminin, notamment dans le monde de la peinture cubiste. Alors il est à souligner qu'avec Frida Kahlo, dont elle n'avait pas la beauté, elle partageait cependant bien des souffrances physiques, étant née handicapée, difforme, ce qui affectait sa motricité. Et son handicap aurait été la conséquence, d'après ce que j'ai lu, d'un accident de sa mère pendant la grossesse. Alors elle était ce qui s'appelle contrefaite et souffrait, outre ses infirmités physiques, de sa laideur physique. Donc ici, c'est plus, c'est aussi une souffrance morale, hein, qui se rajoute, car elle aurait subi des brimades, surtout pendant l'enfance, de la part des camarades de son âge. Alors elle est morte relativement tôt, à l'âge de 51 ans, et elle eut beaucoup de mal à se remettre de la perte d'un de ses meilleurs amis, le peintre Juan Gris, et elle commença alors à décliner et les problèmes économiques se sont amoncelés. Elle contacta ensuite la tuberculose qui finit par l'achever. Et c'est à sa mort que le poète espagnol Federico Garcia Lorca composa pour elle élégie à Maria Blanchard. Et les propos, à ce qu'il paraît, sont élogieux. Comme je ne l'ai pas encore lu, je ne peux pas vous en dire plus. Enfin, quoi qu'il en soit, d'après ce que je constate, l'Espagne lui a rendu hommage, notamment la ville de Madrid, qui avait organisé dans les années 2000 et je crois en 2012, une exposition sur elle. Alors voilà pour cette artiste femme, poussée dans l'ombre malgré son œuvre et son talent, et qui sans doute, à cause de ses handicaps physiques, liée à son handicap social, hein, le fait d'être femme à cette époque, s'est faite avec sa douleur, qu'elle a gardée discrète, plus ou moins complice de cette mise à l'écart injustifiée. Mais elle est cependant reconnue maintenant comme une des plus grandes artistes représentantes du cubisme. Alors une autre artiste peintre espagnole nommée Marura Malo, de son vrai nom Ana María Gómez González, qui elle est née en 1902, manifeste une autre personnalité, on va dire, et cela se conçoit par rapport à Maria Blanchard, qui elle souffrait dans sa chair et peut-être aussi dans son âme. En tout cas, Marura Malo, elle exprime une personnalité plus tapageuse et affirmée, même par rapport à d'autres personnalités féminines. Alors on retient d'elle qu'elle se veut présente comme quelqu'un d'anticonformiste, d'avant-gardiste, une femme qui se veut libre et indépendante par rapport aussi aux hommes qu'elle côtoie. Elle a commencé par faire ses études à la Royal Academy des Beaux-Arts de San Fernando à Madrid, et sa rencontre avec le peintre Salvador Dali lui ouvre les porte du surréalisme où elle se mêlera à la génération 27 qui, comme vous le savez, si vous m'avez écouté les émissions d'avant, correspond à une génération d'artistes espagnols avant-gardistes, donc avec un esprit novateur, parmi lesquels vous trouvez écrivains et peintres. Alors c'est le poète García Lorca, le réalisateur de cinéma Luis Buñuel, le poète dramaturge Raphaël Alberti, etc. Et c'est en tant qu'illustratrice qu'elle fera ses premiers pas dans le monde en participant à des revues, en illustrant des œuvres, notamment celle de Raphaël Alberti. Et l'exposition qu'elle fera pour une publication intitulée La Revista de Occidente lui apporte le succès. Alors, lors de son passage à Paris, elle rencontre la plupart des surréalistes, les poètes écrivains comme André Breton, Paul Éluard, les peintres John Miró, René Magritte. Elle semble à sa place dans ce monde où elle évolue à l'aise, crée et expose. Par la suite, à son retour en Espagne, elle enseignera, avant de s'exiler, comme tant d'autres, à cause de la guerre d'Espagne en Argentine, où elle continuera de travailler surtout la peinture de façon personnelle et participera pleinement à la vie culturelle des villes qu'elle traversera. Elle retournera en Espagne dans les années 60 et continuera de peindre et de créer, cela jusqu'à la fin de sa vie. Alors sa peinture, c'est une variété de styles, formes et couleurs. Vous trouvez des portraits, des représentations minérales et végétales, du figuratif, de l'abstrait, avec un mixte également de techniques où se mêlent la cire, la gouache, l'huile, le stylo et crayon, parfois sur papier ou sur carton. Enfin, quoi qu'il en soit, elle sera récompensée pour son travail et notamment en 1982 en recevant la médaille d'or du mérite des Beaux-Arts attribuée par le ministère espagnol de l'éducation, de la culture et des sports. Et après ce beau parcours, elle décédera à l'âge avancé de 93 ans en 1995. Alors une autre peintre espagnole qui appartenait à la génération 27, c'est Margarita Manso, qui elle est née en 1908. Elle étudia également à l'Académie San Fernando de Madrid et était amie avec Marujá Malo, qui la présenta au peintre Salvador Dali et au poète Federico García Lorca. Alors elle s'intégrera elle aussi sans problème au groupe de la génération 27, tous des jeunes anticonformistes, plutôt rebelles, insolents vis-à-vis des conventions sociales de l'époque qu'ils jugeaient étriquées, et Margarita Manso fut vite considérée au sein du groupe plutôt comme une muse, une égérie, que les hommes admiraient et désiraient pour sa beauté et sa finesse. Elle se mariera avec le peintre espagnol Alfonso Ponce León en 1933, la même année où des conflits armés éclateront en Espagne. Et c'est à cette époque, d'ailleurs, que ses œuvres lui seront retirées ou disparaîtront. Et par la suite, avec l'éclatement de la guerre d'Espagne en 1936, son mari Alfonso sera tué par les franquistes, comme Federico García Lorca sera tué également, ainsi que d'autres membres de sa famille. Alors c'est une période violente, sa vie à ce moment bascule, elle est détruite puisque ses œuvres sont perdues et les êtres qu'elle aime ont été sacrifiés par la guerre. Et par la suite, elle participera encore à la réalisation d'affiches de théâtre, peut-être aussi à l'illustration d'œuvres écrites. Entre-temps, en 1940, elle se sera mariée une seconde fois avec un médecin. Mais sa fin est plutôt triste, puisqu'elle décède d'un cancer du sein à l'âge de 51 ans. Et c'est sa mère qui témoigne dans le sens d'une grande tristesse qui l'aurait conduit à la maladie et aussi à une grave dépression qui la changera et la portera à nier son passé, à éviter de regarder son passé. Alors, il paraît que c'était une artiste de grand talent. Mais malheureusement, il est difficile de trouver quoi que ce soit sur elle qui en témoigne véritablement, vu les événements. Alors avec sa dépression, elle a lâché ses pinceaux et l'histoire l'a oubliée. Et ne reste d'elle qu'une image d'une jolie femme mélancolique sur une photo. Alors oui, nous ne nous quittons pas sur une histoire gaie, je dirais que c'est la vie. Je viens de vous présenter des destins de femmes artistes, peintres espagnoles qui ont chacune, malgré les points communs de l'art et du talent, suivi des parcours à la fois semblables et différents, les unes en prenant la même orientation de départ, les autres en finissant leur vie de la même façon aussi pathétique. Mais nous verrons l'émission prochaine où nous mènent nos artistes. En attendant, bonne digestion de tout ce que je viens de vous apporter, je crois que vous en avez besoin, et merci de votre écoute.
La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.